Dany, imbécile ver de terre, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, c'est vous.
Vous y allez fort, c'est pour vous accueillir vos invités.
Mais c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est l'homme. C'est comme ça que Blaise Pascal nous décrivait dans ses pensées. Est-ce que c'est cette vision lucide, clinique et en même temps bizarrement, paradoxalement aimante ou fraternelle qui vous a séduit chez lui, Blaise Pascal?
Paradoxe, il est un tel pouvoir de séduction chez Pascal. En voilà un qui manie l'invective et la caresse, le grand et le misérable, et qui aime n'aime rien tant que de les mettre ensemble. Il aime penser à l'infini, il aime insérer de la mathématique dans des questions philosophiques, il aime trouver les paradoxes, nous rappeler que si fier de notre intelligence, nous sommes en fait gouvernés par nos émotions, nous rappeler que si fier de notre puissance, nous sommes si misérables qu'un petit ver de terre, et tous se lier les uns aux autres.
Alors on va reparler de Blaise Pascal avec vous dans un instant, mais d'abord votre portrait, et puis un petit peu le sien aussi, réalisé par Gaël Legras, regardez.
Les mathématiques, la politique, Blaise Pascal, c'est la règle de trois de Cédric Villani. Les mathématiques, dit-il, c'est avant tout une science du raisonnement et de la représentation symbolique du monde. Né en 1973, il obtient un bac scientifique à 16 ans avec 18,04 de moyenne générale. Prépa à Paris, école normale supérieure, agrégation DEA, puis il soutient une thèse intitulée « Contribution à l'étude mathématique des équations de Boltzmann et de Landau en théorie cinétique des gaz et des plasmas ». En 2010, il remporte la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel des maths. Directeur de l'Institut Henri Poincaré jusqu'en 2017, il enseigne également à Lyon ou à l'Institut des hautes études scientifiques. À propos de la théorie synthétique de la courbure de Ricci, tout le monde sait qu'une fonction est convexe si sa dérivée seconde est positive. Mais de manière synthétique, on peut aussi dire...
Phi de 1 moins tx plus ty inférieur ou égal à 1 moins t phi de x plus t phi de y.
Il s'engage en politique en 2017. Après l'élection d'Emmanuel Macron, il est investi par LREM aux élections législatives dans l'Essonne.
Le développement scientifique, le développement de la mobilité, l'aménagement du territoire, tout ça sont des enjeux qu'on voit de façon très concrète ici.
Élu avec 69,36% des voix, il siège à l'Assemblée nationale et rédige des rapports pour le gouvernement sur l'enseignement des maths ou sur l'intelligence artificielle. Et puis, en 2019...
Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
LREM lui préfère Benjamin Griveaux, puis Agnès Buzyn. Les listes Villani obtiennent 7,1% des voix. Il devient conseiller du 14e arrondissement. Enfin, candidat écologiste, il se représente dans sa circonscription en 2022 et perd son siège de député pour 19 voix. Président d'honneur de la Fondation Blaise Pascal, il considère que le mathématicien et philosophe a su trouver les mots justes pour décrire la société, l'âme humaine et la connaissance. Né il y a 400 ans, le moraliste serait même un précurseur de l'écologie, car il établit un lien entre toutes choses. Pour le démontrer, Cédric Villani s'appuie sur ce fragment des pensées. Le moindre mouvement importe à toute la nature, la mer entière change pour une pierre.
Alors, pas seulement précurseur de l'écologie politique, mais quasiment un entrepreneur. Vous évoquez même la Silicon Valley, la tech, un esprit semblable à celui qui anime Pascal, les gars en Californie au 21e siècle.
Que de paradoxe, bien sûr, c'est un auteur très chrétien qui a un logiciel conservateur, mais il était aussi admiré par les marxistes pour son maniement de la dialectique et son art oratoire, admiré des écologistes pour le lien qu'il voyait entre les choses, mais aussi sa façon d'écrire l'âme humaine et les liens entre les choses. Et puis, vous avez là quelqu'un qui nous laisse de la matière pour l'admirer, si vous êtes plutôt libéral dans l'âme, quand vous voyez la façon dont il se lance avec audace dans des aventures entrepreneuriales.
Mais par exemple, la Pascaline, la première machine à calculer.
La première machine à calculer dont il voulait faire un succès commercial. Et quand vous lisez Pascal, dans sa façon de présenter la Pascaline, vous retrouvez tous les grands thèmes pascaliens sur la machine, les rapports entre le cœur et la raison, les paradoxes, la dialectique, mais aussi tous les grands thèmes des entrepreneurs de la tech, les Bill Gates, Steve Jobs et autres. La façon de séduire le client en s'adressant directement à lui, lui promettre monts et merveilles, l'obsession pour le design, pour la propriété intellectuelle. Pour la propriété intellectuelle, déjà, il avait intrigué pour obtenir une patente, l'équivalent d'un brevet. Il désingue les adversaires en qualifiant d'avorton les réalisations de ceux qui essaieraient de faire des machines sur son terrain, et ainsi de suite. Bref, un précurseur dont on apprécie le caractère moderne mieux maintenant que jamais.
Aussi, un truc qui va amuser les Parisiens, il y en a quelques-uns qui nous regardent, il avait inventé le premier système de transport public.
le premier transport en commun au monde organisé, c'était Blaise Pascal.
Oui, ils étaient plusieurs à l'avoir conçu.
Aujourd'hui, j'ai eu bien des occasions de m'inscrire dans cet héritage et de remercier Pascal. La première correspondance au monde aussi. Le carrosse aux cinq sols, ça s'appelait à l'époque, la première fois, ce qui était l'ancêtre de nos lignes de bus. Et c'était une aventure entrepreneuriale qu'il a entreprise dans la fin de sa vie, là où on le qualifiait volontiers de sa période la plus religieuse de sa vie, ce qui montre qu'il n'était pas entièrement fourré dans les affaires religieuses.
Marcelo.
Justement, vous avez un point commun avec le pape François parce que vous militez pour que Blaise Pascal soit béatifié. Alors qu'est-ce que ça apporterait? Et surtout, est-ce que vous n'avez pas peur de le figer dans une dimension chrétienne qui est une partie, mais seulement une partie de son œuvre?
Vous pensez capable de figer Blaise Pascal avec un profil aussi foisonnant? Moi, je trouve que ça serait assez drôle qu'il soit béatifié. En plus, sous un pape jésuite, lui qui était un adversaire résolu des jésuites à l'époque de la querelle des jansénistes contre les jésuites. Il y aurait une grande ironie. Pascal, loin du portrait austère qu'on en dresse souvent, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire, provoquer, contredire et trouver de l'amusement dans tout ce grand chaos dont nous, humains, sommes spécialistes.
Vous considérez que son impact scientifique est sous-estimé au XXIe siècle et que précisément on ne conserve que l'image du théologien, du penseur, du philosophe et de celui qui a été converti à travers sa nuit de feu, la fameuse crise mystique.
On découvre maintenant, et je vais vous en donner deux exemples, alors sur les affaires scientifiques ou sur le lien entre scientifique et politique. Un exemple, c'est la façon qu'avait Pascal de comprendre que même si on croit s'adresser à la raison, la vraie façon de comprendre, c'est avec le cœur. Et que si on veut convaincre quelqu'un, c'est sur le registre émotif qu'il faut jouer. Et combien notre connaissance est biaisée. À l'heure où les biais cognitifs triomphent, où on comprend avec l'école d'Anne Kahneman et autres à quel point c'est important pour nos sociétés, c'était un précurseur incompris de Descartes, incompris des philosophes de son temps qu'il jugeait fou. Et un autre exemple, c'est sa façon qu'il a de nous décrire nous. En tant que vous parliez des liens avec l'écologie, il a cette image où
nous
il parle.
Sommes embarqués.
Nous sommes embarqués. Nous alors sommes ça, c'est embarqués. Pour le Paris, nous sommes embarqués. Mais aussi ça. Alors c'était un précurseur des martingales et de la finance quantitative moderne, si on veut. Mais j'admire particulièrement cette image où il décrit. Imaginez un homme qu'on enfermerait, qui aurait seulement une heure, s'il connaît son arrêt, pour arriver à se délivrer, et qui préfère utiliser cette heure non pas à savoir quel est son sort, mais à jouer au piqué. J'y vois la parfaite métaphore de l'humanité face au réchauffement climatique. On a un temps très réduit que nous laisse le GIEC. On sait quel est le danger, on sait quels sont les remèdes, pour peu qu'on y veuille. Mais au lieu de se lancer dans les remèdes, on se distrait avec toutes sortes de jeux, on s'invective, on passe sur les réseaux, on prétend être attaché à ce qui nous empoisonne, écoutez M. Pouyanné, et ainsi de suite.
Alors on va soumettre un paradoxe, Cédric Villani, vous les aimez tant, et ils étaient la matière même de Blaise Pascal. Il y a de grands scientifiques en France du côté des mathématiciens. Le niveau de maths est nul, ou moyen, ou médiocre à l'école. On en parle avec vous, Anna.
Oui, il est plutôt assez mauvais en sixième. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale vient de faire paraître une note la semaine dernière à ce sujet. Le constat est sans appel. Les élèves de sixième, tous milieux sociaux confondus, qu'ils soient scolarisés dans le public ou le privé, ont de vraies difficultés avec les nombres et les fractions notamment. Par exemple, un jeune sur deux n'a pas su répondre à la question « combien de quarts d'heure sont compris dans trois quarts d'heure ?» Pareil, autre exemple, les élèves confondent les fractions, les nombres décimaux. Pour eux, un demi est égal à 1,2. Plus inquiétant, depuis 3 ans, 2020, donc, aucune évolution positive n'a été observée sur le niveau des élèves en mathématiques. Et les auteurs du rapport appellent donc à mener des actions beaucoup plus percutantes dès le primaire, comme par exemple introduire des fractions simples dès le CP ou le CE1. Cédric Villani, je sais que vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Et sinon, qu'est-ce que vous recommanderiez pour améliorer le niveau en mathématiques?
On n'est hélas pas sur un problème neuf. Et je pense que dans les archives de cette émission que je fréquentais il y a déjà 10 ans, il y a quelque part un discours de moi alertant sur la baisse du niveau de mathématiques et sur la démographie des enseignants en mathématiques. La première clé par rapport au problème que vous évoquez, il y a consensus là-dessus, c'est le travailler sur le recrutement, sur l'accompagnement, sur la valorisation du métier d'enseignant et surtout de professeur des écoles. C'est la clé. Le rapport que je rendais au ministre en 2018 là-dessus, insistait là-dessus comme premier levier d'action. Il y en avait d'autres. D'accord. Mais celui-ci était le premier et le plus important.
Une dernière question. Samedi prochain, 30 septembre, ouverture de la Maison Poincaré, musée des mathématiques. Oui. C'est à Paris, dans le 5e, près du
à
Panthéon.
Paris, dans le 5e arrondissement.
C'est peut-être pour justement initier
les petits. Un projet que j'ai lancé il y a 12 ans, quand j'étais à direction de Henri Poincaré, dans lequel vous pourrez, à travers toutes sortes d'expériences, ludique, imaginative, vous rappeler, vous rendre compte de l'impact mathématique sur notre quotidien, de la valeur artistique de la mathématique et aussi de sa valeur utilitaire, de combien ça participe aux différentes formes de raisonnement, de combien ça parle à notre cœur. Ah. Retrouvant ici ce que Blaise Pascal avait bien compris, que ce soit en sciences ou en matière d'éducation, c'est pas un tableau de nombres, c'est pas un tableau Excel qui emporte l'adhésion, c'est bien la façon dont vous arrivez, que vous soyez enseignant ou chercheur ou directeur, à parler au cœur de vos interlocuteurs.
La